provided by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church gather from all areas of the world to receive counsel and instruction from their church leaders. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription or other use of
cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Chers frères et sœurs, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi matin de la 186e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous sommes heureux d'accueillir les membres et les amis de l'Église qui suivent cette conférence partout dans le monde. Il fait un beau jour de printemps ici à Salt Lake. Thomas Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons la présence des autorités générales et officiers généraux qui assisteront à toute cette conférence et nous leur souhaitons la bienvenue. La musique de cette session sera interprétée par le Chœur du Tabernacle sous la direction de Mac Wilberg et Ryan Murphy avec Richard Elliott et Andrew Wandsworth à l'orgue. Le chœur a ouvert cette réunion en chantant « How Wondrous and Great » et va maintenant interpréter « Vrai disciple du Seigneur ». Linda Burton, deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, fera ensuite la prière d'ouverture, après laquelle le chœur chantera « Je ressens son amour ».
Notre Père bien-aimé, nous sommes si heureux d'être réunis en ce jour merveilleux. Nous aimons ton Fils et son sacrifice expiatoire glorieux et sa résurrection. Nous célébrons sa vie qui nous ramène à toi si nous te suivons et le suivons. Et nous remercions pour les prophètes et révélateurs et voyants Et nous te demandons de bénir notre président Monson. Donne-lui la force dont il a besoin lorsqu'il préside cette conférence. Nous voulons approfondir notre désir d'être disciple et de suivre la voie des alliances. Aide-nous à ressentir ton esprit, que nous soyons enseignés par lui et que nous recherchons à être dignes de la seconde venue de ton Fils bien-aimé. Que tout soit béni par toi et tout ce qui se passera. Au nom de Jésus-Christ, amen.
We will now be pleased to hear from President Henry B. Eyring.
Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Henry Eyring, premier conseiller dans la première présidence, qui sera suivi par Mary Durham, deuxième conseillère dans la présidence générale de la primaire. Donald Hallstrom, de la présidence de 70, prendra ensuite la parole.
My beloved brothers and sisters,
mes frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue à la 186e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je suis heureux d'être avec vous et je vous souhaite une cordiale bienvenue.
I am grateful.
Je suis reconnaissant que vous soyez venu à cette conférence pour ressentir l'inspiration du ciel et pour vous sentir plus proche de notre Père Céleste et du Seigneur. Des millions de disciples de Jésus-Christ qui ont fait alliance de toujours se souvenir de lui et de le servir sont assemblés dans cette réunion qui s'étend dans le monde entier. Le miracle de la technologie moderne fait disparaître le temps et les grandes distances qui nous séparent. Nous nous réunissons comme si nous étions tous ensemble dans une seule grande salle. Mais plus important encore que notre rassemblement est le nom qui nous réunit. Le Seigneur a promis que même si ses disciples sont nombreux sur la terre aujourd'hui, il sera proche de chacun de nous. Il a dit à son petit groupe de disciples en 1829, « en vérité, je vous le dis, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je serai là au milieu d'eux. De même, je suis au milieu de vous. » Ce ne sont pas un ou deux, mais une multitude de ses disciples qui sont assemblés à l'occasion de cette conférence. Et comme promis, le Seigneur est au milieu de nous. Parce qu'il est un être ressuscité et glorifié, il n'est pas physiquement présent en chaque endroit où les saints sont rassemblés, mais par la puissance de l'Esprit, nous pouvons sentir qu'il est ici avec nous aujourd'hui. Les endroits ou les moments où nous ressentons la proximité du Sauveur dépendent de chacun de nous. Il a donné cette directive. Et de plus, en vérité, je vous le dis, mes amis, je vous laisse ces paroles pour que vous les méditiez dans votre cœur avec ce commandement que je vous donne, que vous m'invoquerez dans tant que je suis prêt. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Cherchez-moi avec diligence et vous me trouverez. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je connais au moins deux auditeurs aujourd'hui qui veulent cette bénédiction de tout leur cœur. Ils vont essayer sincèrement de s'approcher du Seigneur pendant cette conférence. Ils m'ont tous les deux écrit, leurs lettres sont arrivées à mon bureau la même semaine, pour implorer le même genre d'aide. Ils sont tous les deux des convertis à l'Église et ont reçu précédemment un témoignage clair de l'amour de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Ils savaient que Joseph Smith, le prophète, a organisé l'Église par révélation directe venant de Dieu et que les clés de la Sainte Prêtrise ont été rétablies. Chacun a eu le témoignage que les clés sont en place dans l'Église aujourd'hui. Ils m'en ont solennellement rendu témoignage par écrit. Cependant, chacun se lamente de moins éprouver l'amour pour le Seigneur et de moins sentir que le Seigneur l'aime. Ils veulent tous les deux, de tout leur cœur, que je les aide à retrouver la joie et le sentiment d'être aimés qui étaient les leurs lorsqu'ils sont entrés dans le royaume de Dieu. Ils ont tous deux exprimé leur crainte que s'ils ne retrouvent pas pleinement ces sentiments d'amour pour le Sauveur et pour son Église, les épreuves qu'ils traverseront finissent par avoir raison de leur foi. Ils ne sont pas les seuls à avoir cette inquiétude et leur épreuve n'est pas nouvelle. Pendant son ministère terrestre, le Sauveur nous a donné la parabole de la semence et du semeur. La semence était la parole de Dieu. Le semeur était le Seigneur. La survie de la semence et sa croissance dépendaient de l'état du sol. Vous vous souvenez de ces paroles? Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussi, aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je répète, la semence est la parole de Dieu. Le sol est le cœur de la personne qui reçoit la semence. Nous ressemblons tous beaucoup aux merveilleuses personnes qui m'ont écrit pour que je les aide et les assure, les rassure. À un certain moment, des semences, c'est-à-dire la parole de Dieu, ont été plantées dans notre cœur. Pour certains, c'était dans l'enfance, quand leurs parents les ont invités à se faire baptiser et confirmés par des personnes ayant l'autorité. D'autres parmi nous ont été instruits par des serviteurs appelés de Dieu. Chacun a senti que la semence était bonne, l'a même senti gonflée dans son cœur et a éprouvé de la joie lorsque son esprit et son cœur ont semblé s'épanouir. La foi de chacun d'entre nous a été éprouvée par le retard dans l'obtention des bénédictions auxquelles il aspirait, par des attaques malveillantes des gens qui voulaient la détruire, par des tentations à pécher et par des intérêts égoïstes qui ont sapé ses efforts pour cultiver et adoucir les profondeurs spirituelles de son cœur. Les personnes qui sont attristées par la perte de la joie qu'ils ont connue sont bénies. Certaines ne voient pas que leur foi se flétrit. Satan est malin. Il dit aux personnes qu'il souhaite rendre misérables que la joie qu'ils ont ressentie un jour était une illusion enfantine. Je vous dis à tous aujourd'hui qu'au cours des prochains jours, nous allons avoir une occasion précieuse de choisir de laisser notre cœur s'adoucir et de recevoir et de nourrir la semence. La semence est la parole de Dieu. Elle va être déversée sur nous tous qui écoutons, regardons et lisons cette conférence. La musique, les discours et les témoignages ont été préparés par des serviteurs de Dieu qui ont cherché diligemment à être guidés par le Saint-Esprit dans leur préparation. Au fur et à mesure que la date de la conférence approchait, ils ont prié plus longuement et plus humblement. Ils ont prié pour avoir le pouvoir de vous inciter à faire les choix qui produiront dans votre cœur un sol plus fertile, qui permette à la bonne parole de Dieu de pousser et d'être fructueuse. Si vous écoutez avec l'esprit, votre cœur sera adouci, votre foi affermie et votre capacité d'aimer le Seigneur accrue. Votre décision de prier d'un cœur pleinement résolu transformera votre expérience pendant les sessions de conférence et dans les jours et les mois à venir. Beaucoup d'entre vous ont déjà commencé. Au début de cette session, vous avez fait plus qu'écouter la prière. Vous avez ajouté votre foi à la demande d'avoir la bénédiction que le Saint-Esprit soit déversé sur nous. En ajoutant votre requête silencieuse au nom de Jésus-Christ, vous vous êtes rapproché de lui. C'est sa conférence. Seul le Saint-Esprit peut apporter les bénédictions que le Seigneur désire nous accorder. Dans son amour pour nous, il a promis que nous pouvons sentir que tout ce qu'ils diront sous l'inspiration du Saint-Esprit sera écriture, sera la volonté du Seigneur, sera l'avis du Seigneur, sera la parole du Seigneur, sera la voix du Seigneur et le pouvoir de Dieu pour le salut. Voici, telle est la promesse que le Seigneur vous fait, ô mes serviteurs. C'est pourquoi prenez courage et ne craignez pas, car moi, le Seigneur, je suis avec vous, et je me tiendrai à vos côtés, et vous rendrez témoignage de moi, Jésus-Christ. Vous rendrez témoignage que je suis le Fils de Dieu vivant, que j'étais, que je suis et que je vais venir. Chaque fois qu'un serviteur de Dieu s'approche de la chair, vous pouvez prier et ajouter votre foi en l'accomplissement de la promesse du Seigneur apportée dans Doctrine et Alliance, section 50, et je cite, « En vérité, je vous l'ai dit, celui qui est ordonné par moi et envoyé prêcher la parole de vérité par le Consolateur, selon l'Esprit de vérité, prêche-t-il par l'Esprit de vérité ou d'une autre façon ? Et si c'est d'une autre façon, ce n'est pas de Dieu. Et de plus, celui qui reçoit la parole de vérité, la reçoit-il par l'Esprit de vérité ou d'une autre façon ? Si c'est d'une autre façon, ce n'est pas de Dieu. Comment se fait-il donc que vous ne puissiez comprendre et savoir que celui qui reçoit la parole par l'Esprit de vérité la reçoit telle qu'elle est prêchée par l'Esprit de vérité? C'est pourquoi celui qui prêche et celui qui reçoit se comprennent. Et tous deux sont édifiés et se réjouissent ensemble. Vous pouvez prier au moment où le chœur s'apprête à chanter. Le directeur de chœur, les organistes et les membres du chœur ont prié et ont répété avec une prière dans le chœur et avec la foi que la musique et les paroles adouciront les chœurs et magnifieront leur puissance afin d'édifier la foi des autres. Ils vont se produire pour le Seigneur comme s'ils étaient devant lui, sachant que notre Père Céleste les entend aussi certainement qu'il entend leur prière personnelle. Ils ont travaillé ensemble avec amour pour que la promesse que le Sauveur a faite à Emma Smith se réalise. Car mon âme met ses délices dans le chant du cœur. Oui, le chant des justes est une prière pour moi et sera exaucé par une bénédiction sur leur tête. Si, en plus d'écouter, vous priez également pendant qu'ils chantent, votre prière et la leur seront exaucées par une bénédiction sur votre tête ainsi que sur la leur. Vous aurez la bénédiction de sentir l'amour et l'approbation du Sauveur. Tous ceux qui se joignent à ses louanges sentiront grandir leur amour pour lui. Vous pouvez décider de prier au moment où un orateur semble sur le point de terminer son discours. Lui-même sera en train de prier intérieurement le Père afin que le Saint-Esprit lui donne les paroles de témoignage qui édifieront le cœur et accroîtront l'espérance et la détermination des auditeurs de toujours se souvenir du Sauveur et de respecter les commandements qu'il nous a donnés. Le témoignage ne sera pas une récitation du message. Ce sera l'affirmation d'une vérité que l'Esprit peut porter dans le cœur des personnes qui prient pour obtenir de l'aide, de l'inspiration de Dieu et recevoir l'amour pur du Christ. Un témoignage véritable sera accordé aux orateurs. Les paroles peuvent être concises, mais elles seront portées dans le cœur de l'auditeur humble qui est venu à la conférence avide de la bonne parole de Dieu. Je sais par expérience ce que la foi de bonnes personnes peut accomplir pour susciter des paroles de l'Esprit à la fin d'un discours. Plus d'une fois, quelqu'un m'a dit, après mon témoignage, « Comment saviez-vous ce que j'avais tant besoin d'entendre ?» J'ai appris à ne point m'étonner lorsque je ne me souviens pas d'avoir prononcé les mots. J'ai prononcé les paroles de témoignage, mais le Seigneur était là, me les donnant au moment même. La promesse que le Seigneur nous donnera des mots au moment même où nous en avons besoin s'applique particulièrement au témoignage. Écoutez attentivement ceux qui seront rendus au cours de cette conférence. Vous vous sentirez plus proche du Seigneur. Vous pouvez percevoir que j'arrive au moment où je vais conclure le message que j'ai essayé de transmettre par un témoignage de vérité. Vos prières vont m'aider à recevoir des paroles de témoignage qui peuvent aider quelqu'un qui désire ardemment une réponse à ses questions. Je vous donne mon témoignage sûr que notre Père Céleste, le grand Elohim, aime et connaît chacun de nous. Sous sa direction, son Fils, Jéhovah, a été le Créateur. Je témoigne que Jésus de Nazareth est né, Fils de Dieu. Il a guéri les malades, rendu la vue aux aveugles et ressuscité les morts. Il a payé le prix de tous les péchés de chaque enfant de notre Père Céleste né dans la condition mortelle. Il a rompu les liens de la mort pour tous en se levant du tombeau ce premier dimanche de Pâques. Il vit aujourd'hui, Dieu, ressuscité et glorieux. Cette Église est la seule vraie et il est la pierre principale de l'angle. Thomas S. Monson est son prophète pour le monde entier. Les prophètes et les apôtres que vous entendrez au cours de cette conférence parlent au nom du Seigneur. Ils sont ses serviteurs, ayant l'autorité d'agir en son nom. Il marche devant ses serviteurs dans le monde. Je le sais. Et j'en témoigne en son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Un jeune père était littéralement en train de se noyer. Accompagné de ses deux enfants et de son beau-père, il était parti se promener autour d'un lac. Ils étaient entourés de majestueuses montagnes couvertes de pins. Le ciel était bleu, parsemé de légers nuages blancs. offrant une scène de beauté et de sérénité. Quand leurs enfants ont commencé à avoir chaud et à être fatigués, les deux hommes ont décidé de les mettre sur leur dos et de parcourir à la nage la faible distance qui les séparait de l'autre côté du lac. Cela semblait facile, mais bientôt le père a commencé à se sentir tiré vers le bas et tout est devenu très lourd. L'eau l'entraînait vers le fond du lac. Il a été pris de panique. Comment parviendrait-il à rester à la surface? D'autant plus qu'il avait sa chère petite fille sur le dos. Il a appelé à l'aide, mais le son de sa voix s'est perdu dans le lointain. Son beau-père était trop loin pour répondre à ses cris désespérés. Il s'est senti seul et désemparé. Pouvez-vous imaginer vous sentir aussi seul, incapable de vous raccrocher à quoi que ce soit, et vous débattant au milieu d'une situation désespérée pour sauver votre vie et votre enfant? Malheureusement, à des degrés divers, nous éprouvons tous ce sentiment lorsque nous nous trouvons dans des situations où nous avons désespérément besoin de trouver de l'aide afin de survivre et de sauver nos êtres chers. Proche de la panique, il s'est rendu compte que ses chaussures remplies d'eau l'alourdissaient. Tout en s'efforçant de rester à la surface, il a essayé d'ôter ses chaussures pesantes. Mais elles faisaient ventouse sur ses pieds. Les lacets étaient gonflés d'eau, ce qui resserrait encore davantage le nœud. Dans ce qui a pu lui sembler sa dernière tentative désespérée, il est parvenu à arracher ses chaussures qui, cédant enfin, ont sombré rapidement au fond du lac. Libéré de ce fardeau pesant qu'il avait tiré vers le bas, il s'est immédiatement propulsé vers le haut avec sa fille. Il a alors pu se remettre à nager pour retrouver la sécurité de la rive de l'autre côté du lac. Nous pouvons parfois tous avoir l'impression de nous noyer. La vie peut être pesante. Nous vivons dans un monde bruyant et affairé. Si nous ne faisons pas attention, les choses de ce monde peuvent prendre la place des choses de l'esprit. Comment suivrons-nous l'exemple de ce Père et nous débarrasserons-nous de quelques-uns des fardeaux du monde que nous portons afin de pouvoir maintenir la tête de nos enfants ainsi que notre esprit tourmenté hors de l'eau? Comment pourrons-nous, comme Paul l'a enseigné, rejeter tout fardeau? Comment préparerons-nous nos enfants au jour où ils ne pourront plus s'accrocher à notre témoignage et devront nager eux-mêmes? Nous trouvons une réponse quand nous identifions cette source de force divine. C'est une source souvent sous-estimée. Pourtant, nous pouvons l'utiliser tous les jours pour alléger notre charge et accompagner nos chers enfants. Cette source est le don du Saint-Esprit qui nous guide. À l'âge de 8 ans, les enfants peuvent être baptisés. On leur enseigne qui est Dieu et ils font alliance avec lui. Ils sont entourés de leurs êtres chers, tandis qu'ils sont immergés dans l'eau et ressortent des fonts baptismaux éprouvant une joie immense. Puis ils reçoivent le don ineffable du Saint-Esprit qui les guidera constamment s'ils vivent de manière à recevoir cette bénédiction. David Abednar a dit « La simplicité de cette ordonnance peut nous faire oublier son importance. » Ces quatre mots « Recevez le Saint-Esprit » ne sont pas une exhortation passive, mais constituent une injonction de la prêtrise. Une exhortation faite avec autorité à agir et non à être simplement mu. Fin de citation. Les enfants éprouvent le désir naturel de faire le bien et d'être bons. Nous pouvons percevoir leur innocence, leur pureté. Ils sont également très sensibles à la petite voix douce. Dans 3 Néphis 26, le Sauveur nous a montré la capacité naturelle, spirituelle des enfants. Il leur délia la langue, et ils dirent à leur père des choses grandes et merveilleuses, plus grandes que celles qu'il avait révélées au peuple. La multitude vit et entendit ces enfants. Oui, même des petits-enfants ouvrirent la bouche et dirent des choses merveilleuses. Comment pouvons-nous, nous, parents, accroître la capacité spirituelle de nos jeunes enfants? Comment leur enseignons-nous à rejeter les influences du monde et à faire confiance à l'Esprit lorsque nous ne sommes pas avec eux et qu'ils sont seuls au milieu des eaux profondes de la vie? Je vais vous faire part de quelques idées. Premièrement, nous pouvons attirer l'attention de nos enfants sur les moments où ils entendent ou ressentent l'Esprit. Retournons à l'époque de l'Ancien Testament pour voir comment Élie a justement fait cela avec Samuel. Le jeune Samuel avait entendu une voix à deux reprises, était accouru vers Élie lui disant « Me voici ». « Je n'ai point appelé », avait répondu Élie. Mais Samuel ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. La troisième fois, Élie comprit que le Seigneur appelait Samuel, et il dit alors au jeune garçon de répondre « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Samuel commençait à ressentir, reconnaître et écouter la voix du Seigneur. Mais il ne parvint à comprendre cela que lorsqu'Élie lui aidait à en prendre conscience. Maintenant qu'il avait été instruit, Samuel pouvait se familiariser avec la petite voix douce. Deuxièmement, nous pouvons préparer notre foyer et nos enfants à ressentir la petite voix douce. De nombreux professeurs de langues étrangères pensent que les enfants apprennent le mieux possible une langue lors de programmes d'immersion où ils sont entourés d'autres personnes qui parlent cette langue et où ils sont sollicités pour la parler. Ils n'apprennent pas seulement à dire des mots, mais aussi à parler couramment et même à penser dans la nouvelle langue. Le meilleur cadre d'immersion pour une éducation spirituelle est le foyer, où les principes spirituels peuvent constituer les bases de la vie quotidienne. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. En immergeant notre famille dans l'esprit, nous permettrons à nos enfants de garder leur cœur ouvert à son influence. Troisièmement, nous pouvons aider nos enfants à comprendre comment l'esprit s'adresse à eux. Joseph Smith a enseigné, s'il vient vers un petit enfant, il s'adaptera lui-même au langage et à la capacité d'un petit enfant. Une mère a découvert que, du fait que les enfants apprennent de manière différente, certains par la vue ou l'ouïe, d'autres par le toucher ou le mouvement, plus elle observait ses enfants, plus elle prenait conscience que le Saint-Esprit les instruisait de façon à ce que chacun puisse apprendre au mieux. Une autre mère a raconté comment elle a aidé ses enfants à reconnaître le Saint-Esprit. Parfois, a-t-elle écrit, les enfants ne se rendent pas compte qu'une pensée récurrente, un sentiment de consolation après qu'ils ont pleuré, ou le fait de se rappeler quelque chose juste au bon moment, sont tous des moyens que le Saint-Esprit utilise pour communiquer avec eux. Elle poursuit, j'enseigne à mes enfants à se concentrer sur ce qu'ils ressentent et à agir en conséquence. Le fait de ressentir et de reconnaître l'esprit développera la capacité spirituelle de nos enfants et la voix qu'ils apprendront à connaître deviendra de plus en plus claire pour eux. Cela se passera comme Richard G. Scott a dit, en acquérant de l'expérience et en réussissant à être guidé par l'esprit, vous pouvez obtenir une plus grande confiance en ce que vous ressentez qu'en ce que vous voyez et entendez. Nous ne devons pas craindre en voyant nos enfants pénétrer dans les eaux de la vie, car nous les aurons aidés à se débarrasser des fardeaux du monde. Nous leur aurons enseigné à bénéficier du don de l'Esprit qui les guidera. S'ils recherchent ce don et suivent les directrices de l'Esprit, il continuera à alléger le fardeau qu'ils portent et les ramènera à leur foyer céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Notre doctrine la plus fondamentale comprend la connaissance que nous sommes les enfants d'un Dieu vivant. C'est la raison pour laquelle l'un de ses noms les plus sacrés, c'est Père, notre Père céleste. Ce point de doctrine a été clairement enseigné par les prophètes de tout temps. Quand il a été tenté par Satan, Moïse l'a repoussé en disant « Qui es-tu ? Car voici, je suis un fils de Dieu. » S'adressant à Israël, le psalmiste a déclaré « Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Paul a enseigné aux Athéniens sur l'Aréopage qu'ils étaient la race de Dieu. Joseph Smith et Sidney Rigdon ont eu une vision dans laquelle ils ont vu le Père et le Fils. Et une voix céleste a déclaré que les habitants des mondes sont des fils et des filles engendrés pour Dieu. En 1995, 15 apôtres et prophètes vivants ont affirmé « Tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Chacun est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes. » Le président Monson a témoigné « Nous sommes fils et filles d'un Dieu vivant. Nous ne pouvons pas avoir cette conviction sincère sans éprouver le sentiment neuf et profond d'avoir une grande force et un grand pouvoir. » Ce point de doctrine est si fondamental, si souvent énoncé et si instinctivement simple qu'il peut paraître ordinaire, alors qu'en réalité, c'est l'une des connaissances les plus extraordinaires que nous puissions acquérir. La compréhension correcte de notre héritage céleste est essentielle à notre exaltation. Elle est essentielle pour comprendre le magnifique plan de salut et pour nourrir notre foi dans le premier-né du Père, Jésus le Christ, et en son expiation miséricordieuse. En outre, elle nous motive continuellement à faire et à honorer nos indispensables alliances éternelles. À quelques exceptions près, toutes les personnes qui participent à cette réunion pourraient immédiatement chanter « Je suis enfant de Dieu » sans parole écrite ni partition musicale. Ce cantique très apprécié est l'un des plus chantés dans cette Église. Mais la question déterminante est « Le connaissons-nous vraiment ? » Le connaissons-nous dans notre esprit, dans notre cœur et dans notre âme ? Notre origine céleste est-elle notre identité première et la plus profonde ? Ici-bas, nous nous identifions de nombreuses manières, par exemple par notre lieu de naissance, notre nationalité et notre langue. Certaines personnes s'identifient même par leur activité professionnelle ou leur passe-temps. Ces identités terrestres ne sont pas mauvaises, à moins qu'elles ne supplantent notre identité éternelle, celle de fils ou fille de Dieu, ou n'interfèrent avec elle. Quand la plus jeune de nos enfants avait 6 ans et était en première année d'école primaire, son institutrice a donné aux élèves un exercice d'écriture à faire en classe. On était en octobre, le mois d'Halloween, jour férié dans certaines parties du monde. Ce n'est pas le jour férié que je préfère, mais je suppose que l'on peut y trouver des aspects innocents et rédempteurs. L'institutrice a distribué des feuilles de papier aux jeunes élèves. En haut de la feuille figurait une esquisse d'une sorcière mythique. Je vous ai dit que ce n'était pas le jour férié que je préfère. La sorcière qui se tenait au-dessus d'un chaudron bouillant. La question posée sur la page pour encourager l'imagination des enfants et pour tester leurs compétences rudimentaires d'écriture était « Tu viens de boire une tasse du breuvage de la sorcière. Que t'est-il arrivé ?» Veuillez noter que cette histoire n'est pas donnée comme recommandation aux enseignants. « Tu viens de boire une tasse du breuvage de la sorcière. Que t'est-il arrivé ?» De sa plus belle écriture de débutante, notre petite fille a écrit « Je mourrai. » Et j'irai au ciel. Ça me plairait d'être là. J'aimerais beaucoup ça, parce que c'est le meilleur endroit où aller, parce qu'on est avec notre Père Céleste. Cette réponse a probablement surpris son institutrice, mais quand notre fille a rapporté son devoir terminé à la maison, nous avons remarqué qu'elle avait eu une étoile, la meilleure note. Dans la vraie vie, nous rencontrons des difficultés réelles et non imaginaires. Il y a des souffrances physiques, émotionnelles et spirituelles. Il y a des déchirements quand les situations sont très différentes de ce à quoi nous nous attendions. Il y a un sentiment d'injustice quand il nous semble que nous ne méritons pas notre situation. Il y a des déceptions quand une personne en qui nous avions confiance nous abandonne. Il y a des problèmes de santé, des revers financiers qui peuvent nous rendre perplexes. Il peut y avoir des moments de remise en question quand un point de doctrine ou un événement échappe à notre compréhension du moment. Quand des difficultés se présentent, quelle est notre réaction immédiate? Est-ce la confusion, le doute ou un recul spirituel? Cela porte-t-il atteinte à notre foi? Accusons-nous Dieu ou les autres d'être responsables de notre situation? Ou notre première réaction est-elle de nous rappeler qui nous sommes, l'enfant d'un Père aimant? Cela s'accompagne-t-il d'une confiance absolue qu'il permet qu'il y ait des souffrances terrestres, parce qu'il sait que cela sera une bénédiction pour nous, comme le feu du fondeur, pour que nous devenions semblables à lui et obtenions notre héritage éternel? J'ai participé récemment à une réunion avec Jeffrey R. Holland, enseignant que la vie dans la condition mortelle peut être source de tourments, mais que nos épreuves ont un objectif éternel, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Frère Holland a dit, « Vous pouvez avoir ce que vous voulez, ou vous pouvez avoir quelque chose de mieux. » Il y a 5 mois, ma femme Diane et moi sommes allés en Afrique avec frère et sœur Bednar. Le 6e et dernier pays où nous nous sommes rendus était le Libéria. Le Libéria est un pays merveilleux, qui a un peuple noble et une histoire riche. Mais les choses n'y ont pas été faciles. Des décennies d'instabilité politique et de guerre civile ont aggravé le fléau de la pauvreté. En plus de tout cela, le redoutable virus Ebola y a tué près de 5000 personnes lors de la dernière épidémie. Nous étions le premier groupe de dirigeants de l'Église extérieure à la région à se rendre à Monrovia, la capitale. Depuis que l'Organisation mondiale de la santé avait déclaré qu'on pouvait le faire sans danger après l'épidémie d'Ebola. Par un dimanche matin très chaud et humide, nous nous sommes rendus dans un bâtiment loué pour les réunions dans le centre de la ville. Toutes les chaises disponibles étaient installées, ce qui faisait un total de 3500 sièges. Le décompte final de l'assistance était de 4100 personnes. Presque toutes les personnes qui étaient venues avaient dû faire le trajet à pied ou en utilisant un moyen de transport public peu pratique. Il n'était pas facile pour les membres de se réunir, mais ils sont venus. La plupart sont arrivés plusieurs heures avant l'heure prévue pour la réunion. Quand nous sommes entrés dans le hall, l'atmosphère spirituelle était électrique. Les saints étaient préparés à être instruits. Quand un orateur citait un passage d'écriture, les membres disaient le verset à voix haute. Que le passage soit court ou long, toute l'assemblée répondait à l'unisson. Certes, nous ne recommandons pas nécessairement de le faire, mais c'était assurément impressionnant qu'ils en soient capables. Quant au chœur, ils étaient puissants, dirigés par un directeur de chœur enthousiaste et accompagnés par un jeune homme de 14 ans au piano, les membres ont chanté avec beaucoup d'ardeur. Puis, frère Bednar a pris la parole. C'était bien sûr le clou de la réunion que tous attendaient, entendre un apôtre enseigner et témoigner. De toute évidence, mu par l'esprit au milieu de son discours, Fred Bednar s'est arrêté et a dit « Connaissez-vous quel fondement ferme ?» 4100 voix ont semblé rugir « Oui !» Il a alors demandé « Connaissez-vous la 7e strophe ?» Toute l'assemblée a de nouveau répondu « Oui !» L'arrangement du puissant cantique « Quel fondement ferme ?» chanté par le chœur du tabernacle mormon au cours des 10 dernières années a inclus la 7e strophe, qui n'était pas beaucoup chantée auparavant. Frère Bednar a dit, « Chantons les strophes 1, 2, 3 et 7. » Sans hésitation, le directeur de chœur s'est levé d'un bond et le pianiste détenteur de la prêtrise d'Aaron a immédiatement et énergiquement commencé à jouer les accords d'introduction. Avec un degré de conviction que je n'ai jamais ressenti auparavant dans un cantique chanté par une assemblée, nous avons chanté les strophes 1, 2 et 3. Puis, le volume et la puissance spirituelle se sont élevés quand 4100 voix ont chanté la 7e strophe en déclarant « L'âme qui s'appuie sur Jésus pour se reposer, à ses ennemis, je ne l'abandonnerai. » Quand même l'enfer entier se déchaînerait, jamais, non jamais, jamais, non jamais, jamais, non jamais, je ne l'abandonnerai. Ce jour-là, dans une des réunions spirituelles les plus remarquables de ma vie, j'ai appris une grande leçon. Nous vivons dans un monde qui peut nous amener à oublier qui nous sommes vraiment. Plus nous sommes entourés de distractions, plus il est facile de prendre notre relation avec Dieu à la légère, puis de l'ignorer, puis de l'oublier. Les saints du Libéria ont peu de biens matériels, et pourtant, ils semblent tout avoir au plan spirituel. Ce que nous avons vu ce jour-là à Monrovia était un groupe de fils et de filles de Dieu qui le savaient. Dans le monde actuel, où que nous vivions, et quelle que soit notre situation, il est essentiel que notre identité la plus importante soit celle d'enfant de Dieu. Si nous le savons, cela permettra à notre foi de s'épanouir, nous motivera à nous repentir continuellement et nous donnera la force d'être constant et immuable tout au long de notre parcours dans la condition mortelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Frères et sœurs, au signal du directeur de la musique, l'assemblée se lèvera et se joindra au chœur pour chanter Instant de paix, moment si doux. Après le chant, nous écouterons Gabriel Stevenson du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Kevin Duncan et Stephen Snow des 70. Après leur discours, le chœur chantera « Seigneur, tu me prépareras ». Vous assistez à la 186e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Thank you. Tandis que le soleil de cet après-midi d'hiver glissait derrière la vaste colline enneigée utilisée pour le ski, l'air froid de la montagne nous mordait vivement les joues et le nez. Agissant presque comme un guide sévère, nous enjoignant de regagner nos véhicules sur le parking de la station de ski. Là, dans nos voitures confortables, le chauffage allait bientôt nous réchauffer les doigts et les orteils. Le craquement de la neige gelée sous chacun de nos pas confirmait qu'il faisait extrêmement froid. Notre famille avait passé une journée pleine d'agréments sur les pistes de ski et elle se terminait maintenant sur une note glaciale. En arrivant à la voiture, j'ai cherché les clés dans la poche de mon manteau, puis dans une autre poche, et dans une autre encore. Où étaient les clés? Tout le monde les attendait avec impatience. La batterie était chargée et tous les systèmes, y compris le chauffage, étaient prêts à fonctionner. Mais sans les clés, les portes verrouillées nous interdiraient l'accès. Sans les clés, le moteur ne pourrait pas donner sa puissance au véhicule. À ce moment-là, notre préoccupation principale était de savoir comment nous allions entrer dans la voiture et nous réchauffer. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser, même à ce moment-là, que cela pouvait être l'occasion d'apprendre une leçon. Sans clé, ce merveilleux miracle d'ingénierie n'était plus guère qu'une œuvre de plastique et de métal. La voiture avait un grand potentiel, mais sans les clés, elle ne pouvait pas remplir la fonction pour laquelle elle avait été conçue. Plus je réfléchis à cette expérience, plus cette analogie prend un sens profond pour moi. Je m'émerveille de l'amour de notre Père Céleste pour ses enfants. Je suis émerveillé par la manifestation céleste et par les visions grandioses de l'éternité que Dieu a données à Joseph Smith. Et en particulier, j'éprouve une reconnaissance extrême pour le rétablissement de l'autorité et des clés de la prêtrise. Sans ce rétablissement, il nous serait impossible d'accéder aux véhicules nécessaires pour nous transporter dans notre voyage vers notre foyer auprès de parents célestes aimants. L'accomplissement de chaque ordonnance du salut, composant notre chemin d'alliance pour retourner en la présence de notre Père céleste, exige que la direction qui convient soit donnée par l'intermédiaire des clés de la prêtrise. En mai 1829, Jean-Baptiste est apparu à Joseph Smith et Oliver Cowdery et leur a conféré la prêtrise d'Aaron et les clés associées à cette prêtrise. Peu de temps après, Pierre, Jacques et Jean leur ont conféré les clés de la prêtrise de Melchisédek. Près de 7 ans plus tard, un dimanche, dans le temple de Kirtland, juste une semaine après sa consécration, le Seigneur Jéhovah est apparu en gloire à Joseph et Oliver. Il y a eu ensuite l'apparition de Moïse, Élias et Élie, qui ont remis leurs clés et leurs dispensations. Cette autorité de la prêtrise rétablie et ses clés étaient perdues depuis des siècles. De même que notre famille ne pouvait pas accéder à la voiture du fait de la perte des clés, de même, tous les enfants de notre Père Céleste avaient été exclus des ordonnances salvatrices de l'Évangile de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'un rétablissement divin soit accompli par ces messagers célestes. Nous n'aurons plus jamais à nous demander où sont les clés. L'année dernière, par une belle journée d'automne, j'ai visité la forêt paisible située dans le nord-est de la Pennsylvanie, que l'on appelle Harmony dans les Écritures, où Jean-Baptiste est apparu à Joseph Smith et Oliver Cowdery et a rétabli la prêtrise d'Aaron. Je suis aussi allé sur les rivières de la Susquehanna, où Joseph et Oliver, dotés de l'autorité et des clés, ont été baptisés. Près de cette même rivière, Pierre, Jacques et Jean sont apparus et ont rétabli la prêtrise de Melchisédek et les clés qui y sont associées. Ces sites, ainsi que la première maison de Joseph et Emma, reconstruite, où la plus grande partie du Livre de Mormon était traduite, la maison des parents d'Emma, voisine, et un centre de visiteurs intégré à une nouvelle église, constituent le nouveau site du rétablissement de la prêtrise, consacré par Russell M. Nelson en septembre dernier. J'y ai ressenti le pouvoir et la réalité des événements divins qui ont eu lieu en cet endroit sacré. Cette expérience m'a amené à méditer, étudier et prier au sujet de l'autorité et des clés de la prêtrise, ce qui m'a donné le désir de parler aux jeunes gens et aux jeunes filles de l'Église de la façon dont l'autorité et les clés de la prêtrise rétablies peuvent être une bénédiction pour eux. Pour commencer, il peut être utile de comprendre ces termes. La prêtrise ou l'autorité de la prêtrise a été définie comme étant le pouvoir et l'autorité de Dieu et le pouvoir suprême ici-bas. La définition des clés de la prêtrise éclaire aussi notre compréhension. Les clés de la prêtrise sont l'autorité que Dieu a donnée aux dirigeants de la prêtrise pour diriger, superviser et gouverner l'utilisation de sa prêtrise sur la terre. Les clés de la prêtrise supervisent l'exercice de l'autorité de la prêtrise. Les ordonnances qui entraînent la création d'un certificat dans l'Église nécessitent des clés et ne peuvent être accomplies sans autorisation. Frère Oakes a enseigné, « Au final, toutes les clés de la prêtrise sont détenues par le Seigneur Jésus-Christ, dont c'est la prêtrise. C'est lui qui détermine les clés qui sont déléguées aux mortels et la manière dont ces clés seront utilisées. » Maintenant, à votre intention, jeunes gens et jeunes filles, j'ai réfléchi à trois façons dont vous pouvez trouver les clés ou utiliser les clés de l'autorité de la prêtrise pour recevoir des bénédictions et en apporter à d'autres. La première est de vous préparer au service missionnaire. Mes jeunes frères et sœurs, peut-être n'en avez-vous pas conscience, mais les clés du rassemblement d'Israël rétabli par Moïse permettent d'accomplir l'œuvre missionnaire dans notre dispensation. Imaginez-vous une armée d'environ 74 000 missionnaires à plein temps, œuvrant dans le champ de la mission sous la direction de ces clés. En ayant cela à l'esprit, souvenez-vous qu'il n'est jamais trop tôt pour vous préparer au service missionnaire. La première présidence a fait cette recommandation. Jeunes gens de la prêtrise d'Aaron, œuvrez diligemment à vous préparer à représenter le Seigneur en tant que missionnaire. Les jeunes filles peuvent se préparer aussi, mais vous n'êtes pas sous la même obligation de servir. Néanmoins, que vous serviez ou non comme missionnaire à plein temps, vous tirerez profit de toute votre préparation tout au long de votre vie en étant membre missionnaire. La deuxième façon de trouver les clés est d'aller au temple. Les clés du scellement rétablies par Élie, le prophète de l'Ancien Testament, permettent que des ordonnances soient accomplies dans des temples sacrés. Les ordonnances accomplies dans ces temples permettent à des personnes et à des familles de retourner dans la présence de nos parents célestes. Jeunes gens et jeunes filles, nous vous recommandons de chercher et de trouver les noms de vos ancêtres et de vous faire baptiser par procuration pour eux dans le temple. Nous constatons que cela se produit à un degré important et sans précédent dans le monde entier. Les baptistères des nombreux temples sont remplis de jeunes gens et de jeunes filles tôt le matin et jusqu'à la nuit. Des clés sont tournées qui permettent à des familles d'être liées ensemble par les ordonnances sacrées qui sont accomplies dans les temples. Voyez-vous la relation qui existe entre le rétablissement des clés de la prêtrise et les bénédictions? Je pense que si vous prenez part à cette œuvre, vous découvrirez que le Seigneur y est présent dans ses moindres détails. Pour illustrer cela, j'ai entendu parler récemment d'une mère qui accompagnait régulièrement ses enfants au temple pour accomplir des baptêmes par procuration. Un jour, tandis que cette famille terminait ses baptêmes et s'apprêtait à quitter le temple, un homme est entré dans le baptistère avec une grande quantité de noms de sa famille. Se rendant compte qu'il ne restait personne dans le baptistère pour aider à accomplir les ordonnances pour ces personnes, un servant du temple a rattrapé la famille qui s'en allait et a demandé aux enfants s'ils voulaient bien revenir et se changer de nouveau pour aider à accomplir ces baptêmes. Et ils ont accepté de bon gré et sont retournés dans le baptistère. À mesure que les enfants accomplissaient les baptêmes, leur mère, qui écoutait, a commencé à reconnaître les noms et à l'étonnement général, a constaté que les ancêtres de cet homme étaient aussi des ancêtres décédés de sa famille. Une douce et tendre miséricorde. Il y a deux semaines, le temple du centre-ville de Provo, en Utah aux États-Unis, a été consacré. Il est le 150e temple de l'Église en fonctionnement dans le monde. Nous observons que quand le président Monson était soutenu comme apôtre en 1963, il y avait 12 temples en fonctionnement dans l'Église. Les temples se rapprochent de plus en plus de vous. Mais si vous vivez en des lieux où la distance ou la situation ne permettent pas d'aller régulièrement au temple, vous devez néanmoins rester toujours digne d'y aller. Vous pouvez accomplir une œuvre importante en dehors du temple, en recherchant et en transmettant les noms de vos ancêtres. Finalement, le troisième point, avancez avec foi.
Abraham, le prophète de l'Ancien Testament, a reçu dans sa dispensation une grande bénédiction du Seigneur, que l'on appelle parfois l'Alliance abrahamique. Des milliers d'années plus tard, les bénédictions de la dispensation de l'Évangile donnée à Abraham ont été rétablies. Cela s'est produit quand le prophète Élias est apparu à Joseph Smith et Oliver Cowdery dans le temple de Kirtland. Grâce à ce rétablissement, chacun de vous a accès aux grandes bénédictions promises à Abraham. Ces bénédictions peuvent être vôtres si vous restez fidèles et menez une vie digne. Dans le livret « Jeunes, soyez forts », la première présidence vous donne des instructions très concrètes pour avancer avec foi. Je résume une partie de ces recommandations. Pour vous aider à devenir tout ce que le Seigneur veut que vous deveniez, mettez-vous à genoux matin et soir pour prier votre Père céleste. Étudiez tous les jours les Écritures et appliquez ce que vous lisez à votre vie. Efforcez-vous d'être obéissant chaque jour, en toutes circonstances. Suivez les enseignements des prophètes. Soyez humbles et prêts à écouter le Saint-Esprit. Les recommandations de la première présidence sont suivies d'une promesse menant aux promesses qui sont données par l'intermédiaire des bénédictions d'Abraham. Si vous faites ces choses, le Seigneur rendra vos vies beaucoup plus fructueuses que vous ne pourriez le faire tout seul. Il augmentera vos possibilités, étendra votre vision et vous fortifiera. Il vous donnera l'aide dont vous avez besoin pour affronter vos épreuves et vos difficultés. Vous aurez un témoignage plus fort et vous trouverez une joie véritable en faisant la connaissance de votre Père céleste et de son Fils Jésus-Christ et en ressentant leur amour pour vous. Pour résumer, préparez-vous pour le service missionnaire, allez au temple et avancez avec foi. Finissons maintenant là où nous avons commencé, bloqués sur le parking glacial à nous demander où sont les clés. Au fait, plus tard ce soir-là, j'ai miraculeusement retrouvé les clés qui étaient tombées de ma poche sur la montagne. Le Seigneur nous a montré qu'il ne nous laissera pas debout dans le froid mordant sans clés ou autorité pour nous guider sains et saufs jusqu'à notre foyer auprès de lui. Si vous êtes comme moi, peut-être vous demandez-vous souvent, où sont les clés? De la voiture, du bureau, de la maison ou de l'appartement. Quand cela m'arrive, je ne peux pas m'empêcher de sourire intérieurement, car en cherchant mes clés, je pense aux clés de la prêtrise rétablie et au président Monson, que nous soutenons comme prophète, voyant et révélateur, et comme la seule personne sur la terre qui détient toutes les clés de la prêtrise et qui est autorisée à les utiliser. Oui, les clés sont en sécurité, en la possession des prophètes, voyants et révélateurs. Elles sont conférées, déléguées et confiées à d'autres personnes, en accord avec la volonté du Seigneur, sous la direction du président de l'Église. Je témoigne que l'autorité de la prêtrise et les clés de la prêtrise démarrent le moteur, ouvrent les portes des cieux, permettent d'accéder au pouvoir divin et ouvrent la voie de l'Alliance qui nous ramène auprès de notre Père céleste aimant. Je prie pour que vous, la génération montante de jeunes gens et de jeunes filles, marchiez résolument avec constance dans le Christ, afin que vous compreniez que c'est votre droit sacré d'agir sous la direction des hommes qui détiennent les clés de la prêtrise, qui déverrouilleront pour vous les bénédictions, les dons et les pouvoirs du ciel. Je témoigne de Dieu, le Père, de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ, du Saint-Esprit et du rétablissement de l'Évangile en ces derniers jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Tout ce qui est de Dieu comprend l'amour, la lumière et la vérité. Cependant, nous, les êtres humains, vivons dans un monde déchu. Parfois, plein de ténèbres et de confusion. Il n'est pas surprenant que des fautes, des injustices et des péchés soient commis. Il en résulte qu'il n'est pas une âme vivante qui ne soit pas victime, à un moment ou à un autre, des actions insouciantes, de l'attitude blessante, ou même du comportement pécheur de quelqu'un d'autre. C'est une chose que nous avons tous en commun. Heureusement, Dieu, dans son amour et sa miséricorde pour ses enfants, a préparé un moyen pour nous aider à naviguer sur ces expériences parfois turbulentes de la vie. Il a fourni une échappatoire pour toutes les personnes qui sont victimes des mauvaises actions des autres. Il nous a enseigné que nous pouvons pardonner. Nous pouvons être victimes une fois, mais nous n'avons pas à l'être deux fois en portant le poids de la haine, de l'amertume, de la souffrance, du ressentiment ou même de la vengeance. Nous pouvons pardonner et nous pouvons être libres. Il y a de nombreuses années, tandis que je réparais une clôture, une petite écharde de bois est entrée dans mon doigt. J'ai fait une maigre tentative pour enlever l'écharde et j'ai cru y être parvenu, mais apparemment ce n'était pas le cas. Avec le temps, de la peau a poussé par-dessus l'écharde, formant une bosse sur mon doigt. C'était embêtant et parfois douloureux. Des années plus tard, j'ai finalement décidé d'y faire quelque chose. Tout ce que j'ai fait a été d'appliquer un baume sur la bosse et de le couvrir avec un bandage. J'ai répété ce procédé fréquemment. Vous ne pouvez imaginer ma surprise quand un jour, en enlevant le bandage, j'ai découvert que l'écharde avait émergé de mon doigt. Le baume avait adouci la peau et ouvert une sortie pour ce qui m'avait causé de la douleur pendant tant d'années. Une fois l'écharde sortie, le doigt a rapidement guéri, et jusqu'à ce jour, il ne reste aucune trace de blessure. De manière similaire, un cœur qui ne pardonne pas entretient beaucoup de douleurs inutiles. Si nous appliquons le baume guérisseur de l'expiation du Sauveur, il adoucira notre cœur et nous aidera à changer. Il peut guérir l'âme blessée. Je suis convaincu que la plupart d'entre nous veulent pardonner, mais trouvent cela très difficile à faire. Quand nous avons subi une injustice, nous pouvons être prompts à dire « Cette personne a mal agi, elle mérite un châtiment. Où est la justice ?» Nous pensons à tort que si nous pardonnons, la justice ne sera pas satisfaite et les châtiments seront évités. Ce n'est tout simplement pas le cas. Dieu exercera un châtiment qui sera juste, car la miséricorde ne peut pas frustrer la justice. Avec amour, Dieu nous donne cette assurance à vous et à moi. Réservez-moi le jugement, car il m'appartient et je rétribuerai, mais que la paix soit avec vous. Jacob, un prophète du livre de Mormon, a aussi promis que Dieu vous consolera dans vos afflictions et il plaidera votre cause et fera descendre la justice sur ceux qui cherchent votre destruction. En tant que victimes, si nous sommes fidèles, nous pouvons trouver un grand réconfort dans la connaissance que Dieu compensera chaque injustice que nous subissons. Joseph B. Worthlin a dit « Le Seigneur compense toutes les pertes des fidèles. Chaque larme d'aujourd'hui sera finalement rendue au centuple par des larmes de joie et de reconnaissance. » Quand nous nous efforçons de pardonner aux autres, essayons aussi de nous souvenir que nous sommes tous en train de progresser spirituellement, mais que nous sommes tous à des niveaux différents. Il est facile d'observer les changements et la croissance du corps physique, mais il est difficile de voir la croissance de notre esprit. L'une des clés pour pardonner aux autres est d'essayer de les voir comme Dieu les voit. De temps en temps, Dieu peut écarter le voile et nous accorder le don de voir dans le cœur, l'âme et l'esprit d'une personne qui nous a offensés. Cet aperçu peut même nous amener à éprouver un amour irrésistible pour cette personne. Les Écritures nous enseignent que l'amour de Dieu pour ses enfants est parfait. Il connaît leur capacité de faire le bien, quel que soit leur passé. Il ne pouvait en aucune façon y avoir un ennemi plus agressif et plus acharné des disciples de Jésus-Christ que Saul de Tarse. Pourtant, une fois que Dieu lui a eu montré la lumière et la vérité, il a été le disciple du Seigneur le plus dévoué, le plus enthousiaste et le plus intrépide qui ait jamais existé. Saul est devenu l'apôtre Paul. Sa vie offre un merveilleux exemple du fait que Dieu voit les gens non seulement tels qu'ils sont actuellement, mais aussi tels qu'ils peuvent devenir. Il y a dans la vie de chacun d'entre nous des personnes à l'image de Saul qui ont un potentiel semblable à celui de Paul. Pouvez-vous imaginer le changement qui pourrait se produire dans notre famille, dans notre collectivité et dans le monde en général si nous nous efforcions tous de nous voir les uns les autres comme Dieu nous voit? Trop souvent, nous regardons l'offenseur comme nous regarderions un iceberg. Nous ne voyons que le sommet et non ce qu'il y a sous la surface. Nous ne savons pas tout ce qui se passe dans la vie d'une personne. Nous ne connaissons pas son passé, nous ne connaissons pas ses difficultés, nous ne connaissons pas les souffrances qu'elle supporte. Frères et sœurs, ne vous méprenez pas. Pardonner ne veut pas dire approuver. Nous ne justifions pas les mauvais comportements et nous ne permettons pas à quelqu'un de nous maltraiter en raison de ses difficultés, de ses souffrances ou de ses faiblesses. Mais nous pouvons acquérir une plus grande compréhension et une plus grande paix quand nous voyons avec une perspective plus large. Il est certain que les personnes qui ont moins de maturité spirituelle peuvent effectivement commettre de graves fautes, mais nul d'entre nous ne doit être défini seulement par les pires choses qu'il a faites. Dieu est le juge parfait. Il voit sous la surface. Il sait tout et il voit tout. Il a dit, « Moi, le Seigneur, je pardonne à qui je veux pardonner, mais de vous, il est requis de pardonner à tous les hommes. » Le Christ lui-même, lorsqu'il a été injustement accusé, puis attaqué sauvagement, battu et laissé à souffrir sur la croix, a dit à ce moment précis, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Du fait de notre courte vue, il peut parfois nous être facile d'éprouver du ressentiment à l'égard des personnes qui n'agissent pas ou ne pensent pas comme nous. Nous pouvons avoir une attitude intolérante, fondée sur des choses aussi superficielles que le fait de supporter une équipe sportive adverse ou d'avoir des opinions politiques ou des croyances religieuses différentes. Russell M. Nelson a donné un sage conseil quand il a dit « Les occasions d'écouter les gens de convictions religieuses ou politiques différentes peuvent favoriser la tolérance et être instructives. » Le livre de Mormon parle d'un moment où ceux du peuple de l'Église commençaient à être enflés dans l'orgueil de leurs yeux et commençaient à être dédaigneux les uns envers les autres et commençaient à persécuter ceux qui ne croyaient pas selon leur bon plaisir. Souvenons-nous tous que Dieu ne regarde pas la couleur du maillot ou le parti politique. En fait, comme Amon l'a déclaré, Dieu regarde d'en haut tous les enfants des hommes. Et il connaît toutes les pensées et toutes les intentions du cœur. Frères et sœurs, dans les compétitions de la vie, si nous gagnons, gagnons avec grâce. Si nous perdons, perdons avec grâce. Car si nous vivons avec grâce, les uns envers les autres, la grâce sera notre récompense au dernier jour. Tout comme nous sommes tous victimes des mauvaises actions des autres à un moment ou à un autre, nous sommes aussi parfois l'offenseur. Nous commettons tous des fautes et avons besoin de la grâce, de la miséricorde et du pardon. Nous devons nous souvenir que le pardon de nos péchés et de nos offenses est subordonné au pardon que nous accordons aux autres. Le Sauveur a dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » De toutes les choses que le Sauveur aurait pu dire dans le Notre Père, qui est remarquablement court, il est intéressant qu'il ait choisi d'inclure « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Le pardon est la raison même pour laquelle Dieu a envoyé son Fils. Aussi réjouissons-nous de ce qu'il nous offre la guérison. L'expiation du Sauveur n'est pas seulement pour les personnes qui ont besoin de se repentir. Elle est aussi pour celles qui ont besoin de pardonner. Si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un, demandez à Dieu de vous aider. Le pardon est un merveilleux principe guérisseur. Nous n'avons pas besoin d'être deux fois victimes. Nous pouvons pardonner. Je témoigne de l'amour et de la patience constants de Dieu à l'égard de tous ses enfants et de son désir que nous nous aimions les uns les autres comme il nous aime. Si nous le faisons, nous traverserons les ténèbres de ce monde pour entrer dans la gloire et la majesté de son royaume dans les cieux. Nous serons libres, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Dans l'Église, nous avons la bénédiction d'avoir un grand nombre de cantiques qui nous aident à adorer Dieu par le chant dans nos réunions de l'Église. Les cantiques favorisent la présence de l'Esprit du Seigneur, créent une atmosphère de recueillement, unissent les membres et nous offrent un moyen d'adresser des louanges au Seigneur. C'est dans les cantiques que l'on trouve quelques-uns des plus grands sermons. Juste quelques mois après l'organisation de l'Église, Joseph Smith, le prophète, a reçu une révélation pour sa femme, Emma. Le Seigneur lui a demandé de faire, selon l'inspiration qui lui serait accordée, un recueil de cantiques sacrés pour l'usage de son Église, chose qui lui était agréable. Emma Smith a réalisé une collection de cantiques qui ont été publiées pour la première fois dans ce recueil de cantiques de Kirtland en 1836. Ce mince livret ne comportait que 90 chants. Un grand nombre d'entre eux étaient des cantiques d'église protestante. 26 d'entre eux ont été composés par William Phelps, qui a par la suite préparé et imprimé le recueil de cantiques. Seules les paroles étaient écrites. Aucune partition musicale n'accompagnait les textes. Cet humble petit recueil de cantiques s'est avéré être une grande bénédiction pour les premiers membres de l'Église. L'édition la plus récente de notre recueil de cantiques en anglais a été publiée en 1985. Un grand nombre des chants qu'Emma a sélectionnés tant d'années auparavant sont toujours inclus dans notre recueil de cantiques. Par exemple, « Je sais qu'il vit mon Rédempteur » et « Quel fondement ferme ». Un des nouveaux chants publiés dans le recueil de 1985 est « Oh, sois humble ». Ce cantique paisible a été écrit par Gritsche Terburg-Rowley, qui est décédée l'année dernière. Elle s'est jointe à l'église à Hawaï, où elle était enseignante. Elle a œuvré au sein du Comité général de la musique et a aidé à adapter les cantiques dans de nombreuses langues. Elle a basé son texte pour « Au soi humble » sur deux versets d'écriture, « Doctrine et Alliance, section 112, verset 10 » et « Éther, chapitre 12, verset 27 ». Le verset d'Éther dit « Et si les hommes viennent à moi, je leur montrerai leur faiblesse. Je donne aux hommes de la faiblesse afin qu'ils soient humbles. » Car s'ils s'humilient devant moi et ont foi en moi, alors je rendrai fortes pour eux les choses qui sont faibles. Comme tous les cantiques de l'Église, « Ô sois humble » enseigne des vérités pures et simples. Il nous enseigne que si nous nous humilions, nos prières recevront une réponse. Nous aurons l'esprit en paix, nous servirons plus efficacement dans nos appels, et que, si nous restons fidèles, nous retournerons un jour dans la présence de notre Père Céleste. Le Sauveur a enseigné à ses disciples qu'ils devaient devenir humbles comme un petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux. Quand nous élevons nos enfants, nous devons les aider à rester humbles quand ils deviennent adultes. Nous ne le faisons pas en les brisant par notre rudesse ou par une sévérité excessive dans la discipline. Tout en édifiant leur confiance en eux et leur estime de soi, nous devons leur enseigner l'altruisme, la bonté, l'obéissance, l'absence d'orgueil, la politesse et la modestie. Nous devons leur apprendre à se réjouir de la réussite de leurs frères et sœurs et de leurs amis. Howard Hunter a enseigné que nous devons souhaiter sincèrement la réussite des autres. S'ils ne le font pas, ils peuvent devenir obsédés par leur réussite personnelle, vouloir évincer les autres et éprouver de la jalousie et du ressentiment quand leurs camarades réussissent. Je suis reconnaissant à ma mère qui, quand elle me voyait devenir trop imbu de ma personne, disait « Mon fils, un peu d'humilité maintenant te ferait du bien longtemps. » Mais l'humilité n'est pas une chose à enseigner aux enfants seulement. Nous devons tous nous efforcer de devenir plus humbles. L'humilité est essentielle pour obtenir les bénédictions de l'Évangile. L'humilité nous donne la capacité d'avoir le cœur brisé quand nous péchons ou faisons des erreurs et nous permet de nous repentir. L'humilité nous permet d'être de meilleurs parents, de meilleurs fils et filles, de meilleurs maris et femmes, de meilleurs voisins et amis. L'orgueil, lui, est inutile et peut anéantir les relations familiales, briser les mariages et détruire les amitiés. Il est particulièrement important de vous souvenir de l'humilité quand vous sentez s'élever des querelles dans votre foyer. Pensez à tout le chagrin que vous pouvez éviter en ayant l'humilité de dire « Je te demande pardon, c'était irréfléchi de ma part. Qu'aimerais-tu faire ? Je ne le pensais pas. Ou je suis très fier de toi. » Si ces petites expressions étaient utilisées humblement, il y aurait moins de querelles et plus de paix dans nos foyers. Le simple fait de vivre peut être et est souvent une expérience qui rend humble. Un accident, la maladie, la mort d'êtres chers, des problèmes relationnels ou même des revers financiers peuvent nous faire fléchir le genou. que ces expériences difficiles résultent de nos mauvaises décisions et de notre manque de jugement, ou qu'elles ne nous soient pas imputables, elles nous rendent humbles. Si nous choisissons d'être réceptifs à l'Esprit et restons humbles et ouverts aux enseignements, nos prières deviendront plus ferventes, et notre foi et notre témoignage grandiront à mesure que nous surmonterons les tribulations de l'existence ici-bas. Nous aspirons tous à l'exaltation. Mais avant que cela puisse arriver, nous devons persévérer dans ce que l'on a appelé la vallée de l'humilité. Il y a de nombreuses années, notre fils Eric, alors âgé de 15 ans, a été gravement blessé à la tête. Le voir dans le coma pendant plus d'une semaine nous a brisé le cœur. Les médecins nous ont dit qu'ils n'étaient pas certains de l'issue. Comme on peut le penser, nous avons été ravis quand il a commencé à reprendre conscience. Nous pensions alors que tout irait bien, mais nous nous trompions. Quand il s'est réveillé, il ne pouvait ni marcher, ni parler, ni manger tout seul. Pire encore, il n'avait plus de mémoire à court terme. Il se souvenait de presque tout ce qui était antérieur à l'accident, mais il lui était impossible de se souvenir de ce qui s'était passé ensuite, même de ce qui se passait quelques minutes auparavant. Pendant quelque temps, nous nous sommes inquiétés d'avoir un fils enfermé dans l'esprit d'un jeune de 15 ans. Avant l'accident, notre fils avait beaucoup de facilité. Il était sportif, avait beaucoup d'amis et avait de très bons résultats à l'école. Avant, son avenir semblait brillant. À présent, nous craignons qu'il n'ait plus beaucoup d'avenir, ou en tout cas qu'il s'en souvienne. À présent, il menait un combat pour réapprendre les gestes de base. Cela a été une période très éprouvante pour lui, très éprouvante pour ses parents aussi. Honnêtement, nous nous demandions comment une telle chose pouvait arriver. Nous nous étions toujours efforcés de bien agir. Vivre l'Évangile avait été une grande priorité pour notre famille. Nous n'arrivions pas à comprendre comment quelque chose de si douloureux pouvait nous arriver. Nous nous sommes mis à genoux dès que nous avons appris que sa rééducation prendrait des mois, voire des années. Cela a été encore plus difficile quand nous nous sommes rendus compte, peu à peu, qu'il ne serait pas comme il était auparavant. Pendant ce temps, nous avons versé beaucoup de larmes, et nos prières sont devenues encore plus ferventes et plus sincères. Par les yeux de l'humilité, nous avons peu à peu commencé à voir les petits miracles dont notre fils a bénéficié pendant cette période douloureuse. Il a commencé peu à peu à progresser. Il avait une attitude et une perspective très positives. Aujourd'hui, notre fils Eric est marié à une femme merveilleuse et ils ont 5 beaux enfants. Il est passionné par son métier d'enseignant. Il apporte beaucoup à sa ville et à l'Église. Et surtout, il a conservé l'esprit d'humilité qu'il a acquis il y a longtemps. Mais que se passerait-il si nous pouvions être humbles avant de traverser cette vallée de l'humilité? Alma a dit, « Bénissons ceux qui s'humilient sans être forcés d'être humbles. » Oui, ils sont beaucoup plus bénis que ceux qui sont forcés d'être humbles. Je suis reconnaissant au prophète qui nous a enseigné la valeur de cette grande vertu. Spencer Kimball, 12e président de l'Église, a dit « Comment devient-on humble ?» À mon avis, on ne doit jamais oublier sa dépendance. La dépendance vis-à-vis de qui ? Du Seigneur. Comment ne pas l'oublier ? Par la prière sincère, constante, pleine d'adoration et de reconnaissance. Il ne devrait pas être surprenant que le cantique préféré du président Kimball ait été « Oh, j'ai besoin de toi ». Dallin Oaks a dit que c'était le cantique d'ouverture le plus souvent chanté par les frères dans le temple pendant les premières années de son service au sein du Collège des 12. Imaginez l'impact spirituel d'une poignée de serviteurs du Seigneur chantant ce cantique avant de prier pour qu'il les guide dans l'accomplissement de leurs grandes responsabilités. Je témoigne que l'humilité est importante pour nous. Je suis aussi reconnaissant aux personnes qui, comme Gritch Rowley, ont écrit des paroles et de la musique inspirante qui nous aide à apprendre la doctrine de l'Évangile de Jésus-Christ qui inclut l'humilité. Je prie pour que nous nous efforcions d'acquérir l'humilité afin de devenir de meilleurs parents. Et je suis reconnaissant aux cantiques qui nous aident à devenir de meilleurs parents, de meilleurs fils.
et de meilleures filles et de meilleurs disciples du Sauveur. Je prie pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous remercions tous ceux qui ont participé à la réunion de ce matin, et en particulier le chœur du Tabernacle Mormon, de la belle musique qu'il nous a offerte. Le dernier orateur de cette session sera Dale Rundland, du Collège des Douze Apôtres. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Come Thou Fount of Every Blessing ». Ensuite, Arnulfo Valenzuela, des 70, fera la prière de clôture.
Mes chers frères et sœurs, quand j'habitais en Afrique, j'ai demandé des conseils à Wilford Anderson, des 70, pour savoir comment aider les saints qui vivaient dans la pauvreté. Voici l'une des idées remarquables qu'il m'a données. Plus la distance est grande entre le donateur et le bénéficiaire, plus celui-ci tend à penser que c'est un dû. Ce principe est à la base du plan d'entraide de l'Église. Quand des membres ne sont pas capables de pourvoir à leurs besoins, ils s'adressent d'abord à leur famille. Ensuite, si nécessaire, ils peuvent s'adresser aux dirigeants locaux pour qu'ils les aident à subvenir à leurs besoins temporels. Les membres de la famille et les dirigeants locaux de l'Église sont les plus proches des personnes dans le besoin. Ils ont souvent fait face à des situations semblables. Grâce à la proximité des donateurs, les gens qui reçoivent de l'aide selon ce modèle sont reconnaissants et ont moins tendance à penser que c'est un dû. Le concept que plus la distance est grande entre le donateur et le bénéficiaire, plus celui-ci tend à penser que c'est un dû, a aussi de profondes implications spirituelles. Notre Père Céleste et son Fils, Jésus-Christ, sont les donateurs suprêmes. Plus nous nous éloignons d'eux, plus nous nous considérons comme des ayants droit. Nous commençons à penser que nous méritons la grâce et que des bénédictions nous sont dues. Nous sommes plus enclins à regarder autour de nous, à relever des inégalités, à nous sentir lésés, voire à être offensés par l'injustice que nous percevons. Les injustices vont des plus courantes aux plus écœurantes. Mais quand nous sommes loin de Dieu, même de petites iniquités paraissent grandes. Nous pensons que Dieu se doit de régler les choses et de les régler tout de suite. Le livre de Mormon illustre la différence faite par notre proximité avec notre Père Céleste et Jésus-Christ, par le profond contraste entre Néphi et ses frères aînés, Laman et Lémuel. Néphi avait le grand désir de connaître les mystères de Dieu. C'est pourquoi il invoqua le Seigneur, et son cœur fut adouci. À l'opposé, Laman et Lémuel étaient loin de Dieu. Ils ne le connaissaient pas. Néphi acceptait des tâches difficiles sans plainte. Mais Laman et Lémuel murmuraient en beaucoup de choses. Murmurer est l'équivalent scripturaire de pleurnicher comme un enfant. Les Écritures rapportent qu'ils murmuraient parce qu'ils ne connaissaient pas la manière d'agir du Dieu qui les avait créés. La proximité de Néphi avec Dieu lui a permis de reconnaître et d'apprécier les tendres miséricordes de Dieu. Par contre, quand Laman et Lémuel ont vu que Néphi recevait des bénédictions, ils étaient furieux contre lui parce qu'ils ne comprenaient pas la manière d'agir du Seigneur. Laman et Lémuel considéraient les bénédictions qu'ils recevaient comme leur dû, ayant violemment supposé qu'ils devaient avoir plus. Ils semblaient considérer les bénédictions de Néphi comme des torts commis contre eux. C'est l'équivalent scripturaire des ayants droit insatisfaits. Néphi faisait preuve de foi en Dieu pour accomplir ce qui lui était demandé. Au contraire, Laman et Lémuel, étant endurcis de cœur, ne se tournaient pas vers le Seigneur comme il l'aurait dû. Ils semblaient penser que le Seigneur avait l'obligation de donner des réponses aux questions qu'il n'avait pas posées. « Le Seigneur ne nous révèle rien de la sorte », disait-il. Mais il ne faisait même pas l'effort de demander. C'est l'équivalent scripturaire du scepticisme railleur. Parce qu'ils étaient loin du Sauveur, Laman et Lémuel murmuraient, devenaient querelleurs et étaient sans foi. Ils pensaient que la vie était injuste et qu'ils avaient droit à la grâce de Dieu. Par contre, parce qu'ils s'étaient rapprochés de Dieu, Néphi a dû reconnaître que la vie serait très injuste pour Jésus-Christ. Bien qu'absolument innocent, le Sauveur souffrirait le plus. Plus nous sommes proches de Jésus-Christ dans les pensées et les intentions de notre cœur, plus nous apprécions sa souffrance d'innocent, plus nous sommes reconnaissants pour la grâce et le pardon, et plus nous voulons nous repentir et devenir comme lui. Notre distance absolue avec notre Père Céleste et Jésus-Christ est importante, mais la direction que nous prenons l'est encore plus. Dieu se réjouit davantage d'un pécheur repentant qui essaie de se rapprocher de lui que de personnes suffisantes, critiques, qui, comme les pharisiens et les scribes d'autrefois, ne se rendent pas compte à quel point ils ont besoin de se repentir. Enfant, je chantais un cantique de Noël suédois qui enseigne une leçon simple, mais qui est une grande leçon. Nous rapprocher du Sauveur nous fait changer. Les paroles disent à peu près ceci. Quand brille le matin de Noël, je veux aller à l'étable, où Dieu, pendant les heures de la nuit, se repose déjà sur la paille. Tu as été si bon de vouloir descendre sur terre. Désormais, je ne veux plus gâcher les jours de mon enfance dans le péché. Jésus, nous avons besoin de toi. Toi, le cher ami des enfants, je ne veux plus t'affliger par mes péchés. Quand nous rendons symboliquement à l'étape de Bethléem, où Dieu s'est déjà reposé sur la paille pendant la nuit, nous pouvons mieux reconnaître le Sauveur comme un don d'un Père céleste gentil et aimant. Au lieu de penser que nous avons droit à ses bénédictions et à sa grâce, nous concevons le profond désir de ne plus causer d'autres peines à Dieu. Quelle que soit notre direction ou notre distance actuelle par rapport à notre Père céleste et à Jésus-Christ, nous pouvons choisir de nous tourner vers eux et de nous rapprocher d'eux. Ils nous aideront. Le Sauveur l'a dit au Néphite après sa résurrection, et mon Père m'a envoyé pour que je sois élevé sur la croix, et qu'après avoir été élevé sur la croix, j'attire tous les hommes à moi. Et c'est pour cela que j'ai été élevé. C'est pourquoi, selon le pouvoir du Père, j'attirerai tous les hommes à moi. Pour nous rapprocher de notre Sauveur, nous devons accroître notre foi en lui, contracter des alliances et les respecter, et avoir le Saint-Esprit avec nous. Nous devons aussi agir avec foi en réagissant aux directives spirituelles que nous recevons. Tous ces éléments sont réunis dans la Sainte Cène. En effet, la meilleure manière que je connaisse de se rapprocher de Dieu est de se préparer consciencieusement et de prendre dignement la Sainte Cène chaque semaine. Une de nos amies d'Afrique du Sud a raconté comment elle s'en est rendue compte. Quand Diane était une nouvelle convertie, elle allait à l'église dans une branche à l'extérieur de Johannesburg. Un dimanche, tandis qu'elle était assise dans l'assemblée, la disposition de la salle de culte a empêché les diacres de la voir quand ils ont distribué la Sainte Cène. Diane était déçue, mais elle n'a rien dit. Un autre membre a remarqué l'oubli et en a fait part au président de branche après la réunion. Tandis que l'école du dimanche commençait, on a conduit Diane dans une salle vide. Un détendeur de la prêtrise est entré. Il s'est agenouillé, a béni du pain et lui a tendu un morceau. Elle l'a mangé. Il s'est agenouillé à nouveau, a béni de l'eau et lui en a tendu un petit verre. Elle l'a bu. Ensuite, deux pensées se sont succédées rapidement dans son esprit. D'abord, « Oh, il, le détenteur de la prêtrise, l'a fait rien que pour moi. » Puis, « Oh, il, le Sauveur, l'a fait rien que pour moi. » Diane a ressenti l'amour de notre Père céleste. Sa prise de conscience du sacrifice du Sauveur est précisément ce qui lui a permis de se rapprocher de lui et qui a nourri en elle le désir ardent de garder ce sentiment dans son cœur, pas seulement le dimanche, mais chaque jour. Elle s'est rendue compte que bien qu'elle soit assise parmi une assemblée pour prendre la Sainte Cène, les alliances qu'elle renouvelait chaque dimanche étaient les siennes. La Sainte Cène a aidé et continue d'aider Diane à ressentir le pouvoir de l'amour divin, à reconnaître la main du Seigneur dans sa vie et à se rapprocher du Sauveur. Le Sauveur a déclaré que la Sainte Cène est indispensable à une fondation spirituelle. Il a déclaré, « Et je vous donne le commandement de faire ces choses, prendre la Sainte Cène. Et si vous faites toujours ces choses, vous êtes bénis, car vous êtes bâtis sur mon roc. Mais quiconque parmi vous fera plus ou moins que cela n'est pas bâti sur mon roc, mais est bâti sur une fondation de sable. Et lorsque la pluie tombera, et que les torrents viendront, et que les vents souffleront et s'abattront sur lui, il tombera. » Jésus n'a pas dit, « Si la pluie tombe, si les torrents viennent, si les vents soufflent, mais lorsque. » Personne n'est épargné par les difficultés de la vie. Nous avons tous besoin de la sécurité qui nous est donnée quand nous prenons la Sainte Cène. Le jour de la résurrection du Sauveur, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs. Sans qu'ils le reconnaissent, le Seigneur ressuscité se joignit à eux. Pendant qu'ils marchaient, il les instruisit à l'aide des Écritures. Arrivé à leur destination, ils l'invitèrent à dîner avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les apôtres, les 11 apôtres et ceux qui étaient avec eux assemblés. Puis ils témoignèrent aux apôtres, « Le Seigneur est réellement ressuscité ». Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. La Sainte Cène nous aide réellement à nous souvenir du Sauveur. Elle nous rappelle aussi sa souffrance d'innocent. Si la vie était vraiment juste, vous et moi ne ressusciterions jamais. Vous et moi ne pourrions jamais nous tenir sans tâche devant Dieu. À cet égard, je suis reconnaissant que la vie ne soit pas juste. En même temps, je peux déclarer avec insistance que grâce à l'expiation de Jésus-Christ, au bout du compte, dans le plan éternel des choses, il n'y aura aucune injustice. Tout ce qui est injuste dans la vie peut être réparé par l'expiation de Jésus-Christ. Notre situation actuelle peut ne pas changer, mais grâce à la compassion, la bienveillance et l'amour de Dieu, nous recevons plus tout ce que nous méritons, plus que nous ne pourrions jamais gagner et plus que nous ne pourrions jamais espérer. Nous avons la promesse que Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, que la mort ne sera plus et qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Où que vous en soyez dans votre relation avec Dieu, je vous invite à vous rapprocher de notre Père céleste et de Jésus-Christ, les bienfaiteurs et donateurs suprêmes de tout ce qui est bon. Je vous invite à assister à la réunion de Sainte-Cène chaque semaine et à prendre les emblèmes sacrés du corps et du sang du Sauveur. Je vous invite à ressentir la proximité de Dieu qui se fait connaître à vous, comme il s'est fait connaître aux disciples d'autrefois en rompant le pain. Je vous promets que si vous le faites, vous vous sentirez plus proche de Dieu. Les tendances naturelles aux pleurnicheries puériles, à l'attitude d'ayant droits insatisfaits et au scepticisme railleur se dissiperont. Ces sentiments seront remplacés par une gratitude et un amour plus grand pour le don qu'a fait notre Père céleste de son Fils. Quand nous nous rapprochons de Dieu, le pouvoir habilitant de l'expiation de Jésus-Christ se manifeste dans notre vie. Et comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, nous nous rendrons compte que le Sauveur aura été constamment avec nous. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Mercy, never cease. Our Father in heaven,
notre cher Père Céleste, à la fin de cette session de la conférence générale, nous t'exprimons notre reconnaissance pour cette musique inspirante et pour les paroles qui nous ont été données, tes paroles données par tes prophètes voyants et révélateurs. Nous sommes reconnaissants pour ton Fils, Jésus-Christ, pour son évangile rétabli. Nous sommes aussi reconnaissants pour ton Église, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Nous sommes reconnaissants pour ton prophète, le président Monson. Nous prions pour lui et pour sa santé. Nous prions aussi, Père, pour la sécurité de tous les missionnaires, de tous tes missionnaires qui prêchent l'Évangile dans toutes les extrémités de la terre. Et nous prions pour ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 100...
Vous venez d'assister à une session de la 186e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le Mormon Tabernacle Choir. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.